Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le magazine du week-end, c'est samedi et dimanche, 1h20 de décryptage de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h et pour toujours sur franceculture.fr, à la réécoute et en podcast. Le Tour de France qui s'était lancé hier fête cette année le centenaire du maillot jaune. C'est l'occasion de rappeler que la grande boucle n'a cessé d'évoluer, de se réinventer pour entretenir les attentes du public. Mais les scandales de dopage et les évolutions techniques ont brouillé son image. Alors le Tour est-il toujours populaire? On en parle à partir de 13h15 avec Béatrice Houchard et Olivier Ralambon. Avant cela, direction l'Iran, c'est l'actualité du jour. Le président Hassan Rouhani a en effet annoncé la reprise de l'enrichissement de l'uranium à un niveau prohibé. Il s'affranchit donc des obligations du traité nucléaire en réponse à la politique de pression maximale voulue par Donald Trump et fait monter d'un cran les tensions dans une région qui a de plus en plus des allures de poudrière.
Les avoirs financiers de l'ayatollah Khamenei ne seront pas épargnés par ces sanctions. Ces mesures sont une réponse dure et proportionnée aux actions provocatrices de l'Iran. Nous allons continuer à accentuer la pression sur Téhéran jusqu'à ce que le régime abandonne ses activités dangereuses et notamment sa quête de l'arme nucléaire. L'enrichissement de l'uranium, ses missiles balistiques, son soutien du terrorisme et à la guerre et ses agressions contre les États-Unis et leurs alliés.
Les États-Unis ont le gouvernement le plus terrible du monde. Ce pays est la cause de guerres, de massacres et de divisions. Il a commis de nombreux pillages de nations. Ce comportement n'a pas eu lieu seulement depuis 10 ou 20 ans, mais tout au long de son histoire.
L'ultimatum lancé il y a 60 jours par l'Iran aux États encore partie prenante du traité nucléaire signé à Vienne en 2015 est donc arrivé à son terme. C'est la conséquence du retrait des États-Unis, des reprises des sanctions, mais aussi, selon Mohammad Javad Zarif, le négociateur du traité nucléaire et actuel ministre des Affaires étrangères, de l'incapacité de l'Europe à sortir de l'isolement les secteurs bancaires et pétroliers iranien. Sur la scène intérieure, la décision de Donald Trump, prise dans l'espoir, dit-on, de renverser le régime des mollahs, a plutôt eu pour effet de réduire à néant le poids politique des modérés. D'un point de vue économique, la situation est catastrophique, même si l'Iran, dit-on, aurait la capacité financière de tenir 2 ans sous ce régime de sanctions et donc d'attendre les prochaines élections présidentielles américaines. Pas sûr que des pays comme la Chine, très dépendant du pétrole en provenance du Golfe Persique, aient cette patience. Enfin, du point de vue purement géopolitique, l'alliance un peu contre nature qui prévaut depuis quelques années dans la région entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite et Israël, rend la situation particulièrement explosive. Iran-États-Unis, la guerre des nerfs, c'est donc notre premier sujet du jour. Et pour en discuter, les deux parties sont en présence, l'Iran et les États-Unis, enfin plus ou moins avec vous, Fereydoun Kavan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le spécialiste des relations de l'économie, voilà, des relations économiques internationales et de l'Iran, ancien maître de conférence à l'université Paris 5, et Alexandra de Hubschefer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund of the United States. Merci d'être là tous les deux. Il y a Fereydoun Kavan, plusieurs interprétations possibles de cette décision iranienne, puisque c'est l'actualité du jour, comment comprenez-vous cette décision annoncée donc mercredi dernier, mise en œuvre aujourd'hui, rappelons-le, d'enrichir l'uranium 235 à un niveau de pureté supérieur à 3,67%, c'est-à-dire la limite imposée par cet accord signé à Vienne en 2015.
Dans l'état actuel des choses, on peut dire que il ne s'agit que des dérapages contrôlés. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les Iraniens ne veulent pas abandonner l'accord nucléaire, ne veulent pas sortir de cet accord, parce qu'ils savent parfaitement qu'une sortie de l'accord nucléaire pourrait déclencher des mesures de sanctions extrêmement importantes en dehors des États-Unis, mais de la part des Européens et, d'une certaine manière, de la communauté internationale. Par conséquent, dans l'état actuel des choses, ils ne veulent pas aller jusque-là. Alors, l'interprétation serait de dire c'est un moyen d'exercer des pressions sur l'Union européenne en particulier, parce que après la sortie des États-Unis, il y a l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, plus la Russie et la Chine qui sont restés dans l'accord nucléaire. Pour l'instant, donc, l'Iran ne demande rien aux Russes et aux Chinois. L'Iran s'adresse, la République islamique s'adresse essentiellement et exclusivement aux Européens en disant « faites quelque chose ». Parce que toutes les dispositions mises en œuvre jusqu'à présent pour permettre à l'Iran de bénéficier des contreparties de l'accord nucléaire, c'est, donc ces avantages n'existent plus. Les Européens ont fait tous les efforts possibles. Et le dernier effort, c'était, on en parlera peut-être, INSTEX. Mais c'est une disposition vide. Cela n'aide pas l'Iran de sortir de ses difficultés actuelles.
Oui, on reviendra sur ce dispositif INSTEX qui est une façon de desserrer les taux économiques qui étouffent l'Iran depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais je me tourne vers vous, Alexandra de Hobschaeffer. Est-ce que du côté américain, on peut penser que l'effet visé par Donald Trump, qui s'attendait bien sans doute en sortant de l'accord nucléaire et en réactivant ce régime de sanctions, qu'il y aurait évidemment une réaction du côté de l'Iran et donc de pouvoir continuer à dénoncer ce bad deal, cette mauvaise affaire, cette mauvaise négociation menée par Barack Obama?
Bien sûr, bien sûr. Je pense que là, on est vraiment dans une escalade, en fait, depuis la décision de Trump de retirer les États-Unis de cet accord nucléaire qui avait été signé en 2015. Donc, le 8 mai 2018, ça fait un an et demi qu'on voit cette escalade vraiment prendre une ampleur sans précédent entre l'Iran et les États-Unis. C'est effectivement la stratégie de la pression maximale, mais la réponse iranienne, c'est effectivement la résistance maximale. Et on voit donc cette escalade monter. Et on a finalement un intérêt partagé côté iranien et américain pour ne pas avoir une guerre. C'est ça qui est assez incroyable dans toute cette histoire, c'est que Trump effectivement fait escalader les tensions avec l'Iran. L'objectif, c'est de faire capituler le régime iranien en l'asphyxiant économiquement. On voit que c'est un peu sa stratégie, je dirais, qu'il utilise un peu également dans la guerre commerciale qu'il lance avec la Chine. Son outil préféré, ce sont les sanctions. Ce sont les sanctions économiques et il croit fermement pouvoir obtenir des gains politiques ou en tout cas faire venir le régime iranien à la place des négociations pour renégocier un accord qui serait meilleur que celui signé en 2015. C'est ça l'objectif, avec en fait une réaction iranienne qui se fait bien entendre.
Au risque, Fereydoun Kaban, que ce dérapage contrôlé que vous signaliez tout à l'heure devienne un dérapage incontrôlé. On a frôlé le pire, c'était fin juin, le 20 juin, après qu'un drone américain ait été abattu dans l'espace international selon les États-Unis, dans l'espace aérien iranien selon les autorités iraniennes. Donald Trump avait lancé ses avions pour un bombardement. Il aurait rappelé les avions, annulé l'attaque 10 minutes avant la frappe, découvrant qu'il y aurait probablement environ 150 morts. Il trouvait que c'était un peu disproportionné vis-à-vis d'un drone non occupé qui avait été abattu quelques jours avant. Mais on voit les incidents qui se multiplient dans le Golfe Persique, autour de bâtiments. Là encore récemment, les Anglais, les Britanniques ont arraisonné un bâtiment iranien du côté. Alors c'est pas dans le Golfe Persique, c'est vers Gibraltar, mais malgré tout, voilà, sur ordre des Américains, selon les Iraniens, on voit que la tension monte, et on n'est pas à l'abri, évidemment, qu'un individu, un militaire, dépasse un petit peu, outrepasse ses fonctions et que donc ça déclenche un incident.
Bien sûr, ces risques existent au moins pour deux raisons. D'abord parce que à l'intérieur du régime de la République islamique, vous avez des éléments non contrôlés ou bien des factions qui ont intérêt à ce que la situation s'envenime. Et donc, ce sont des factions qui profitent largement de la crise qui existe dans les relations internationales de l'Iran. Ces factions pourraient être à l'origine donc des événements non contrôlés pouvant donner lieu à des crises beaucoup, beaucoup plus graves que celles que nous connaissons à l'heure actuelle.
Par exemple, les attaques de bâtiments dans le Golfe Persique, est-ce qu'on sait aujourd'hui si ce sont vraiment des attaques iraniennes, peut-être du fait de ces éléments incontrôlés, ou est-ce qu'on est encore dans le doute aujourd'hui?
On est dans le doute. On n'a pas de réponse vraiment catégorique à cela. Moi, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait le fait des éléments incontrôlés, parce que dans ces domaines, le guide suprême est très vigilant. Je voulais dire qu'il y a un deuxième élément qui pourrait déclencher cela, c'est que ce sont les ennemis de l'Iran dans la région. L'Arabie Saoudite, Israël, probablement, les Émirats Arabes Unis pourraient, ces pays pourraient eux aussi déclencher des provocations pour accélérer les choses dans le sens de la guerre. Par conséquent, ces risques existent pour des raisons d'ordre interne à la République islamique ainsi que des alliés, enfin des adversaires plutôt de la République islamique dans la région.
Alexandra de Hobschaeffer, ces éléments incontrôlés, ils existent aussi dans l'administration américaine. Le fameux moustachu John Bolton, qui est le conseiller de Donald Trump pour la sécurité nationale, je crois, est présenté comme l'un de ces faucons qui véritablement pousse pour aller vers la guerre, malgré les promesses de Donald Trump, qui avait vraiment promis de ne plus envoyer de boys à l'étranger et de retirer les États-Unis de ce type de guerre, d'opérations étrangères.
Absolument. Je pense que là, Trump, en fait, évite le piège dans lequel était tombé son prédécesseur, George W. Bush, au moment de...
Son prédécesseur républicain, donc de la... il y avait Barack Obama entre les deux.
Mais effectivement, au moment de la guerre en Irak 2002-2003, où Bush s'est retrouvé pris au piège néoconservateur. Et effectivement, il y avait John Bolton, qui était déjà dans l'administration Bush, et on le retrouve dans l'administration de Trump. Là, Trump et sa volte-face, en fait, qui a duré, enfin, qui a précédé quelques heures avant, effectivement, les attaques militaires qui étaient déjà préparées contre l'Iran. Ça a vraiment été ça. Ça a été une capacité, une volonté de Trump de montrer aussi qu'il savait résister à ses conseillers les plus faucons. Donc, il y a effectivement John Bolton, mais il y a aussi Mike Pompeo, son secrétaire d'État, hein, qui, depuis un certain temps, disait il faut renverser le régime de l'Iran, il faut être beaucoup plus musclé d'un point de vue réponse militaire. Donc il a su résister à ça, et son message, en grande partie, il a été adressé auprès de ses conseillers faucons. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent dans des moments de confusion, où il est un peu tiraillé entre d'un côté, là on le voit vraiment, sa volonté de gagner les élections de 2020, et en même temps sa volonté de montrer qu'il est fort et qu'il est capable de répondre face à des provocations ou des contre-provocations iraniennes, il va avoir recours à une panoplie de conseillers non officiels. Et entre autres, les personnes qui l'ont fait changer d'avis, c'est non pas son secrétaire d'État ou son secrétaire à la défense intérimaire, c'est Fox News. Hein. Ce sont des journalistes de Fox News et notamment un général américain, Keeve, ancien vice-chef d'état-major des armées américaines, qui lui ont textuellement dit « Si tu attaques l'Iran militairement, tu perds les élections de 2020. »
Oui, on l'entend, hein, le régime iranien joue sa survie, Donald Trump joue sa survie politique, sa réélection, Alexandra de Hubschefer, mais juste un mot tout de même sur cette attaque qui a été annulée. Comment est-ce qu'elle est interprétée côté américain? Après, je vous demanderai à vous, Fedoun, qu'avant, comment est-ce qu'elle est interprétée côté iranien? Est-ce que c'est une marque de faiblesse ou de sagesse? C'est-à-dire, on se souvient de la fameuse ligne rouge de Barack Obama en 2013 avec la Syrie qui finalement n'avait pas été sanctionnée d'avoir utilisé des armes chimiques. Là, on pourrait penser aussi que la ligne rouge n'est plus si rouge que ça, comme l'a dit, je crois, un militaire américain sur Fox News également.
Bien sûr. Alors, en fait, la réaction a été très différente de l'épisode que vous venez d'écrire de cette volte-face d'Obama en 2013 au moment où il avait fixé cette ligne rouge pour la Syrie. Ça a été perçu à l'époque comme un acte de faiblesse de la part d'Obama. Là, c'est plutôt perçu comme un acte de bon sens de la part de Trump, parce qu'il est tellement imprévisible que finalement la décision de ne pas recourir aux forces militaires a été très positivement perçue. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir la manière dont l'opinion publique américaine a réagi. Ils sont à plus de 80% derrière la décision de Trump de ne pas intervenir militairement. Donc je dirais de manière assez large, la classe politique au sein du Congrès et les Américains sont totalement favorables à cette volte-face de la part du président Trump, qui a été perçu plutôt comme un acte de bon sens.
Fereydoun Kavan, du côté iranien, aveu de faiblesse et même de la région, aveu de faiblesse de Donald Trump ou aveu de sagesse?
Plutôt, on l'a considéré comme un aveu de faiblesse. Cette attaque a été présentée à la population et à l'opinion publique comme un acte héroïque qui prouve la grande force de la nation iranienne. Mais je profite de cette question pour vous dire que dans ces conflits, cette tension entre les États-Unis et l'Iran, il faut pas oublier le rôle de la République islamique et toutes les provocations, notamment de la part du guide suprême. N'oublions pas qu'après la signature de l'accord nucléaire de 2015, le guide suprême voulait dire « Bon, nous avons signé cet accord uniquement pour avoir l'argent du pétrole, mais je vais continuer ce que je faisais avant, c'est-à-dire développer le programme balistique, intervenir dans les pays du Moyen-Orient, Irak, Liban, Yémen et autres. Et par conséquent, la République islamique reste exactement ce qu'elle était auparavant, mais avec l'argent du pétrole provenant après la signature de l'accord nucléaire. Et deuxième chose, il ne faut pas non plus imputer toutes les difficultés économiques de l'Iran à ceux qui sont... L'Iran, la République islamique, c'est un régime très corrompu. Il suffit de regarder la liste publiée chaque année par la Transparence internationale pour voir dans quel état se trouve. C'est un pays très mal géré. Et donc, on peut répéter à l'encontre des dirigeants iraniens ce que disent aujourd'hui les Algériens à l'encontre de leur peuple. Par conséquent, il faut être un peu plus mesuré dans la répartition des responsabilités concernant ces cette crise.
Mesuré et évidemment précis également, puisqu'il faut toujours rappeler que l'Iran a une sorte de double tutelle, c'est bicéphale la direction de l'Iran. Il y a le guide suprême que vous venez de citer, et il y a la présidence, et il y a cette tension entre les deux, entre ces deux pôles politiques.
On parle beaucoup de la diarchie en Iran, deux régimes, mais en fait, il y a un seul pouvoir, le seul pouvoir qui compte en Iran, parce que la République islamique, le président de la République n'est considéré comme le collaborateur du guide, pour reprendre une expression qu'on a utilisée sur la scène intérieure française il y a quelques années. Donc ce n'est qu'un collaborateur. La décision principale, les décisions sont prises par le noyau central de la République islamique, qui a des visions extrêmement dures vis-à-vis de l'Occident en général, vis-à-vis des États-Unis en particulier, et par conséquent, cela doit être pris en considération dans les commentaires que l'on fait sur la situation iranienne.
Alors, puisque vous nous y invitez, Feridoun, qu'avant, on va en venir à cette pomme de discorde qu'est le JCPOA, ce Joint Comprehensive Plan of Action, ce qu'on appelle les accords de Vienne, qui a été signé, donc, je le disais, en 2015. Je vais être un petit peu long, mais il faut rappeler ce dont il était question à l'époque. Elle prévoyait la levée des sanctions en échange d'un certain nombre de points, se séparer de la quasi-totalité des réserves de son uranium enrichi, donc pour l'Iran évidemment, ne plus enrichir au-delà de 3,67%, c'est cette limite-là qui a été dépassée aujourd'hui, d'abandonner deux tiers des centrifugeuses et d'accepter évidemment les visites de surveillance régulière et stricte de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc rien en effet sur les programmes balistiques, rien sur les interventions étrangères, c'est ce qui est reproché par Donald Trump, et d'une certaine façon par la France aussi à l'Iran, il faut le rappeler, qui veut un addendum en quelque sorte à cet accord de Vienne pour renforcer pour renforcer cet accord. Est-ce que l'Iran a respecté sa part du marché? Vous avez dit la volonté de l'Ayatollah Khamenei de ne pas le respecter, mais est-ce que malgré tout, voilà, aujourd'hui on est dans une situation où en quelque sorte l'Iran peut dire bah, nous on a respecté notre part du deal, ceux qui ne l'ont pas respecté ce sont les Européens d'un côté, les États-Unis de l'autre, Alexandra Dobscheffer?
Il y a effectivement cette perception mutuelle. Cet accord a été signé dans un contexte de très grande crise de confiance qui n'a pas du tout été rétablie entre l'ensemble des acteurs autour de la table. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que depuis quelques semaines, l'administration Trump se rend compte que pour, je dirais, la phase de reconstruction après s'être retirée de l'accord nucléaire iranien, eh bien, elle a terriblement besoin de nous, les alliés, notamment européens. Ce qui m'a frappé, c'est de voir, par exemple, le secrétaire à la défense américain intérimaire, Mark Esper, arriver fin juin à cette réunion des ministres de la défense de l'OTAN et appeler à une internationalisation de la crise iranienne.
C'est avec pas un message de retenue, mais pas de faiblesse.
Exactement, voilà, exactement. Mais ce qui est très intéressant, et c'est très répétitif dans la politique étrangère américaine, c'est qu'après une phase souvent unilatérale, soit on intervient militairement unilatéralement, ou on retire les Américains, les États-Unis d'un accord international, ils en viennent à la prise de conscience que finalement, ils ont besoin des alliances, et ils ont besoin de travailler de manière plus concertée et collective pour trouver une sortie à cette crise. Et donc là, ce que l'on voit, c'est effectivement une Europe qui doit jouer ce rôle-là. L'Iran, à travers son ministre des Affaires étrangères à la conférence de sécurité de Munich en février cette année, dit il faut que les Européens se mouillent face aux États-Unis. Et effectivement, c'est une vraie attente. Et là, peut-être cette main, je dirais, tendue de la part des États-Unis, puisqu'ils n'ont pas vraiment de sortie de cette crise iranienne, à part essayer de recréer une coalition avec les États du Golfe et avec nous, Européens, pour essayer de trouver une solution pour avancer vers des pourparlers. C'est à nous de saisir cette chance et d'être beaucoup plus audibles dans cette crise.
Oui, mais comment, Feridoun Kavanch, saisir cette chance avec une sorte d'épée de Damoclès, vous qui êtes spécialiste, je le disais en introduction, des relations économiques internationales, avec cette épée de Damoclès qui est une justice déterritorialisée du côté des États-Unis, qui a repris, et c'était vraiment le problème avant le traité de Vienne, et ça reste aujourd'hui avec Donald Trump de nouveau le problème, les États-Unis qui s'arrogent le droit de sanctionner toute entreprise qui fait du commerce aux États-Unis et qui utiliserait des dollars ou qui même ferait du commerce avec l'Iran. Or, c'est vraiment pour l'Europe la seule possibilité de desserrer les taux et peut-être d'obtenir de l'Iran des avancées. En tout cas, c'est comme ça que le voit la diplomatie européenne, c'est de pouvoir recommencer à commercer. Mais si des grandes entreprises, des banques comme la BNP, puisqu'on en a beaucoup parlé, risquent des milliards et des milliards de dollars d'amende, elle n'ira pas.
Exactement, parce que on peut dire que les pouvoirs publics européens, au niveau de l'Union européenne, ainsi que dans les États nationaux, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne. On fait tous les efforts possibles pour sauver l'accord de...
Ça fait deux fois que vous le dites. C'est vrai, ils ont vraiment fait tous les accords possibles, selon vous ?
Ils ont fait tous les efforts possibles jusqu'à présent. Mais le problème, c'est que les entreprises n'acceptent pas les ordres donnés par les pouvoirs publics européens. Prenons le cas, dès qu'il y a eu donc les menaces américaines et les menaces de sanctions et surtout le rétablissement des sanctions américaines, toutes les entreprises ou presque européennes ont quitté dans la précipitation le territoire iranien. Et pour une raison très simple, c'est parce que, prenez le cas d'une entreprise qui avait une très forte implantation en Iran, c'est-à-dire la société Total. Et pourquoi Total a quitté avec une telle rapidité l'Iran? Tout simplement parce que c'est une entreprise qui a des activités dans une centaine de pays, qui utilise largement le dollar des États-Unis, qui finance ses opérations par les banques américaines, qui a des activités très importante sur le territoire américain. Et dans ce cas précis, comment voulez-vous que Total puisse rester en Iran? Et on peut dire la même chose pour toutes les autres, Renault, Peugeot, Alstom, les firmes allemandes et autres. Ils sont tous dans cette situation et l'Europe n'a pas des moyens pour exercer des pressions sur ces entreprises. Et l'euro ne pèse pas lourdement face au dollar des États-Unis.
Alexandra de Hoopscheffer, sur cette extraterritorialité des sanctions, est-ce que les États-Unis sont prêts à, adoucir un petit peu leur position sur le sujet, justement s'ils sentent qu'ils ont besoin des Européens ou pas du tout?
Alors pas pour le moment. En revanche, ils montrent une plus grande flexibilité par rapport à la Chine. C'est ça qui est très intéressant parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran. L'Iran est le cinquième fournisseur de pétrole de la Chine, où il exporte plus d'un quart de sa production. Et que dans le cadre, et on sait très bien que Trump aime bien mélanger à la fois les enjeux de sécurité, de commerce économique, etc., pour faire des pressions sur l'un et l'autre des domaines, il utilise aussi la pression sur l'Iran et notamment les limitations sur les exportations pétrolières de l'Iran pour faire pression sur la Chine dans le cadre de leurs discussions commerciales. C'est extrêmement intéressant. Et donc là, depuis quelques jours, normalement, les États-Unis avaient levé les exemptions, justement, en termes d'importation de pétrole iranien auprès de la Chine, de la Turquie, de l'Inde, du Japon.
Qui étaient les quatre pays qui, de nouveau, avaient le droit d'importer du pétrole iranien, mais qui n'avaient plus le droit avec les nouvelles sanctions de Donald Trump.
Exactement. Voilà. Donc ça a été véritablement un tournant aussi, je dirais, dans l'escalade de la réponse iranienne, donc qui remonte au début du mois de mai. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la Chine a dit, excusez-nous, mais nous, on est très dépendants du pétrole iranien. On va continuer à en importer parce qu'on en a vitalement besoin. Et cette crise iranienne aussi doit être envisagée comme une crise beaucoup plus large que cette espèce de bataille entre les États-Unis et l'Iran, et au milieu l'Europe qui a du mal effectivement à s'entendre ou à trouver des outils pour essayer d'atténuer l'impact des sanctions américaines. C'est véritablement un enjeu géopolitique très important du 21e siècle, et notamment parce que l'Iran, le golfe d'Oman, aujourd'hui se trouve au cœur de la stratégie Belt and Road, de la route de la soie chinoise. C'est dans cette région que la Chine a le plus investi ces dernières années en termes d'infrastructures, et puis ça permet aussi de contrôler les canaux maritimes pour pouvoir se faire fournir le pétrole et le gaz iranien. Donc là, il y a une zone qui est effectivement absolument critique sur le plan géopolitique. Et c'est pour ça que la Chine, par rapport aux États-Unis, a une vision qui est beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus holistique de l'enjeu iranien que les Américains, qui ont tendance, comme d'habitude, à compartimentaliser. Ils compartimentalisent l'Iran, la région du Golfe. La Chine a une vision beaucoup plus long terme. Donc elle joue là aussi, je dirais, un bout de son avenir.
Alors Feridoun, qu'avant, on a parlé de Instex, donc Winstex, je ne sais pas comment il faut dire, qui est ce système mis en place par les Européens, qui est un système économique peut-être pour refaire du commerce avec l'Iran. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
Alors c'est un système.
Redécrivez-le-nous un petit peu d'abord,
oui,
pour nos
auditeurs. C'est un système de troc, si vous voulez. C'est-à-dire que l'Iran exporte vers l'Union européenne. La contrepartie monétaire permettrait aux Européens d'exporter vers l'Iran. Et donc, par conséquent, ces transactions pourraient échapper aux sanctions américaines. Mais le problème est très clair, c'est que peut exporter l'Iran? C'est le pétrole, mais les Européens n'achètent pas du pétrole iranien. Et par conséquent, il n'y a pas d'argent pour faire fonctionner ce mécanisme. Alors, la seule solution qui reste est probablement les pressions donc déclarées aujourd'hui en ce qui concerne un niveau supérieur pour l'enrichissement de l'uranium. La seule solution qui existe pour les Européens, c'est d'ouvrir une ligne de crédit pour les Iraniens en disant, puisque le pétrole ne peut pas exporter vers l'Europe, nous vous accorderons des crédits en attendant un jour. Et là, combien il faut mettre, il faut combien de crédits pour octroyer à l'Iran? Ça veut dire, là, il s'agit de plusieurs milliards d'euros et les Européens ne veulent pas aller jusque-là. Sauf si c'est, disons, un événement vraiment extraordinaire les poussant vers cette sortie, vers cette solution.
D'autant plus que ça pose un problème politique, c'est-à-dire que malgré tout, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le régime iranien n'est pas un régime ami de l'Europe, ni même qu'on a envie de soutenir en tant que tel, Fayadoun Kavan.
Exactement. Et je voulais dire, donc, d'une certaine manière, concernant la Chine, que les Chinois sont très très malins, c'est-à-dire ils profitent largement du commerce avec l'Iran, ils continuent à exporter, mais les Chinois, eux aussi, ont accepté de ne pas acheter le pétrole iranien. C'est-à-dire depuis le 2 mai 2019, les Chinois ont arrêté d'acheter du pétrole iranien. L'Iran, avant les sanctions américaines, exportait 2 600 000 de barils par jour. À l'heure actuelle, d'après les chiffres un peu, les exportations iraniennes ne dépassent pas 300 à 500 000 de barils par jour, ce qui crée une énorme difficulté pour l'économie iranienne.
Alexandra Dobscheffer, on a vu dans le retrait américain de Donald Trump du traité de Vienne l'opportunité peut-être pour l'Europe de se détacher un peu justement de la diplomatie américaine, de mener en quelque sorte sa propre diplomatie. On se rend compte que c'est pas du tout ça qui s'est passé et que finalement Donald Trump, dont on critique souvent le côté erratique et le manque de vision diplomatique, bah là il a fait un coup qui a fonctionné en tout cas, c'est que les Européens sont obligés de s'aligner sur sa propre diplomatie.
C'est un peu le paradoxe de cette situation, malgré l'opposition des Européens face à la décision de Trump de retirer les États-Unis de cet accord nucléaire, finalement, on s'aligne de manière tacite sur la position américaine. On sait aussi que cette crise a mis en lumière nos faiblesses, nos divisions en Europe. On a vu aussi l'administration américaine déployer une stratégie de lobbying phénoménale en Europe, en se rendant notamment à Varsovie auprès des pays de l'Europe centrale pour les convaincre justement de s'allier au camp américain, c'est-à-dire de ne plus soutenir cet accord nucléaire. Et effectivement, il reste en gros les trois grands pays, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, qui essayent d'utiliser des outils comme l'Instex, mais qui en plus ne concerne que les médicaments et l'aide humanitaire. Donc c'est pas ça qui va permettre d'atténuer les effets de l'embargo américain sur le pétrole iranien. Donc les outils que déploient les Européens sont beaucoup trop soft, beaucoup trop faibles par rapport à l'impact des sanctions américaines sur l'Iran. Et puis c'est surtout qu'on voit encore une fois que l'Union européenne a du mal à définir une politique commune, tout simplement. Donc c'est vrai que on entend beaucoup, notamment dans le discours politique français, cette volonté d'une Europe qui soit stratégiquement, politiquement plus autonome, hein, l'autonomie stratégique des États-Unis, à un moment où il y a beaucoup de désaccords de fond sur beaucoup de sujets politiques très importants entre les Européens et les Américains, où on ne partage ni même la même vision, ni même la même approche. Mais on a du mal à développer cette autonomie stratégique qui se réduit très souvent aux trois pays, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et c'est ce trio, et on le voit notamment sur l'outil Instex dont on a parlé, ont du mal à rallier autour d'eux d'autres partenaires européens. Donc souvent, on se retrouve un peu affaibli. Voilà. Donc le constat est effectivement pas très positif. On n'a pas les outils pour contrecarrer ce gendarme économique et financier que représentent les États-Unis aujourd'hui. Et donc, on essaie d'utiliser des outils, disons, intermédiaires pour gagner du temps, en fait, hein, pour gagner du temps et faire en sorte que l'Iran reste plus ou moins engagé dans le cadre de cet accord. Mais le problème, c'est qu'effectivement, face à ces escalades et à ces provocations iraniennes, nous sommes inévitablement poussés à nous aligner un peu plus sur la position dure américaine, voyez. Donc on est de plus en plus pris dans ce paradoxe-là.
Fayadoun Kavan.
Exactement, moi je confirme, parce que finalement la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne adressent à l'Iran les mêmes critiques que les États-Unis, c'est-à-dire demandent à l'Iran d'arrêter son programme de fusées balistiques, cesser d'intervenir dans les pays du Moyen-Orient,
notamment, et puis aller au-delà
de 2025 concernant, disons, l'échéance de l'accord nucléaire. Mmh. Donc, les critiques sont exactes. Il y a une différence, c'est que les Européens disent finalement, on maintient l'accord nucléaire, mais on demande des négociations sur ces sujets. Alors que pour les États-Unis, c'est l'accord nucléaire. Personnellement, je pense que cet accord nucléaire vit ces derniers jours ou ces derniers mois.
Vous êtes d'accord, Alexandra Dobcheffer ?
Je pense que oui. Mais c'est vrai que contrairement à d'autres sujets de politique étrangère, l'Iran et peut-être la Chine, ce sont les deux sujets aujourd'hui où en fait les Européens et les Américains auraient tout intérêt à coopérer. Et notamment, vous avez cité la France qui effectivement avait la position la plus dure au moment de la négociation de cet accord nucléaire de 2015. C'est grâce à la France qui a eu cette insertion de ce mécanisme de l'effet cliquet, le snapback, c'est-à-dire que si l'Iran se désengageait totalement de ses engagements dans le cadre de cet accord, eh bien, il pourrait y avoir un rétablissement des sanctions économiques internationales via l'ONU et non plus seulement via les États-Unis. Et donc là, la France, pour moi, a particulièrement est un acteur qui est crédible. Et d'ailleurs, on voit que le président Macron essaie de jouer le rôle d'intermédiaire. Shinzo Abe, le premier ministre japonais, a désespérément essayé de jouer il y a quelques semaines. Ça a été un échec. Mais là, je pense que la France peut jouer un rôle. Et d'ailleurs, elle le joue en ce moment. Je pense que l'idée, c'est effectivement de redéfinir les contours de cet accord, de le compléter, comme le président Macron le dit depuis plus de 2 ans, de ces 2 piliers notamment qui traitent des activités balistiques et aussi des actions de l'Iran dans la région, que ce soit en Syrie, en Irak, en Afghanistan, etc. Donc quelque chose qui soit beaucoup plus holistique. Voilà.
Feridoun Kavan, un mot tout de même avant de terminer cette émission, de ce que ça produit, cette nouvelle évolution des relations, notamment entre l'Iran et les États-Unis, ce que ça produit sur la société iranienne elle-même. On a pu lire récemment que les quelques espaces léger de liberté qui existait en Iran, notamment autour de certaines universités, c'est complètement refermé, puisque aujourd'hui, critiquer ou manifester même le moindre doute sur la politique iranienne, c'est faire le jeu de l'ennemi.
La population iranienne est très inquiète en ce moment. Très, très inquiète. Et surtout, ce que reproche la population et une grande partie de la population iranienne au régime, c'est qu'il ne s'agit pas du locataire actuel de la Maison Blanche. Depuis 40 ans, c'est la même situation. Avec Carter, avec Clinton, avec les autres, avec tous les présidents des États-Unis, l'Iran a un problème, enfin, la République islamique a un problème idéologique avec l'Amérique. Il faut prendre en considération ce fait. Le guide suprême veut la destruction de l'Occident en général. De ce point de vue, il n'y a pas beaucoup de différence entre, disons, les durs chiites et les durs sunnites. Ils veulent la même chose. Et malheureusement, Rouhani, le président de la République, Monsieur Zarif, le ministre des Affaires étrangères, ne sont qu'un décor.
Et qui sont des figures modérées du régime.
Ce sont des figures modérées du régime, mais la décision est prise par le guide suprême, et c'est l'article 110 de la constitution iranienne qui donne tous les pouvoirs au guide.
Oui, le 1er juillet dernier, le président de la commission de la sécurité nationale et des affaires étrangères du parlement iranien, Mojtaba Zolnour, a déclaré « Si les États-Unis nous attaquent, il ne restera qu'une demi-heure de vie à Israël ». On voit que cette rhétorique est encore très présente. Ce n'est que de la rhétorique ou c'est aussi réalité?
Après quelques semaines, effectivement, après la signature de l'accord nucléaire de 2015. Ils ont montré des fusées, des engins, avec des inscriptions en hébreu à Téhéran. Ils ont montré ces engins aux journalistes étrangers en disant, voilà, ces engins sont destinés à la destruction, à détruire Israël. Alors, dans ce cas-là, moi, je me pose la question, est-ce qu'ils veulent vraiment la paix? Est-ce qu'ils veulent la fin des tensions avec les États-Unis? De toute façon, pour la population iranienne, il n'y a pas de doute. Tant que les tensions existent dans les relations avec les États-Unis, l'Iran ne pourrait jamais, jamais retrouver la paix. Merci. Et la prospérité.
Merci Feridoun Kavan. Merci Alexandra Dehobscheffer de nous avoir éclairé sur cette situation compliquée qui mériterait encore bien des développements sur la situation géopolitique de la région. Mais ce sera l'occasion d'autres émissions à n'en pas douter. Merci beaucoup.
Disse alguém que há bem no coração salão onde o amor descansa. Ai de mim, eu tão sozinho vivo assim sem. esperança a implorar alguém que não lhe quis e feliz, bem feliz seria. Coração meu, convém descansar. Soluça mais devagar. Disse alguém, disse que há bem no coração um salão dourado, onde o amor sempre dança. Ai de mim que só vivo tão sozinho. Assim, vivo sem ter um terno carinho a implorar alguém que não me quis e feliz então eu sei bem, sei que não mais seria meu, meu coração tem esperança e vive a chorar, soluçar, como quem tem medo de reclamar. Disse alguém que há bem no coração um salão onde o amor descansa. Ai de mim, eu tão sozinho. Sem esperança.
Hommage à João Gilberto dont on a appris la mort à 88 ans, c'était à Rio de Janeiro, on l'a appris cette nuit, l'inventeur il y a 60 ans de la bossa nova, qui était aussi proche de très nombreux jazzmen, on se souvient de ses collaborations avec Stan Getz, il reprenait ici un standard du jazz américain, All of Me, qui devient Dice Alghem sur l'album Amoroso. Vous pourrez retrouver évidemment tout de suite une page spéciale sur franceculture.fr consacrée à João Gilberto, et dès demain, dans les émissions de France Culture, il lui sera évidemment rendu hommage.
Le magazine du week-end, Raphaël Bourgois.
C'est exceptionnel et nous voulons absolument être présents parce que nous sommes amateurs de vélo. Et tous les gens que vous voyez, des milliers et des milliers de personnes, c'est, ils aiment le vélo.
Un Belge sans un vélo, ça n'existe
ça
pas.
Ça n'existe pas, je crois pas.
Mes favoris, il y a Peter Sagan, Romain Bordet, Maxime Montfort, j'adore le cyclisme et j'adore la course aussi. Les deux fusionnés, ça, j'aime bien.
Inexplicable.
Tour de France.
Plein d'émotion.
Transmission, télévision.
Quelques réactions de spectateurs belges sur un air de Kraftwerk. La 106e édition du Tour de France s'est donc élancée hier depuis la Belgique. Il fallait bien cela pour rendre hommage à la première victoire il y a 50 ans du mythique Eddy Merckx. Car la Grande Boucle, c'est avant tout un producteur de mythologie, comme l'avait très bien compris Roland Barthes, servi par une imagerie, à commencer par celle du maillot jaune, inventé il y a 100 ans par Henri Desgranges, pour que le spectateur puisse reconnaître les premiers de la course. Le premier de la course, il n'y en a qu'un, évidemment. Il portait ce maillot jaune, les couleurs du quotidien sportif Lotto, créateur, premier sponsor de l'événement. L'exploit sportif et business, engouement populaire, font depuis le début de cette compétition le sel qui reste la compétition la plus regardée, non, la troisième plus regardée au monde. Le spectacle est toujours entré en tension avec la technique. Saviez-vous que jusqu'en 1936, les dérailleurs étaient bannis pour renforcer le spectacle? En 2014, ce sont les oreillettes qui sont proscrites après 20 ans de polémique sur leur rôle délétère en matière de stratégie de course devenue stéréotypée et prévisible, c'est toujours un peu le cas. On ne peut pas non plus ne pas évoquer le dopage qui a sérieusement écorné l'image des héros du Tour, Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault. Le dernier vainqueur français, ce n'est pas Armstrong ou Froome. Alors, il est légitime de s'interroger, le Tour est-il toujours populaire? Eh bien, on va poser la question à nos deux invités du jour. Béatrice Houchard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur d'un livre récemment, Le Tour de France et la France du Tour. C'est publié chez Calman Lévy. Et Olivier Aralambon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, philosophe et surtout ancien coureur cycliste. Coureur cycliste toujours, peut-être, en tout cas cycliste amateur. Et auteur de Le Coureur et son nombre, c'était en 2017. Et cette année, Mes coureurs imaginaires, deux livres publiés aux excellentes éditions. Premier parallèle, alors.
Absolument.
Vous êtes, comme les spectateurs qu'on a entendus en introduction, toujours excités l'un et l'autre par le départ d'un nouveau tour ?
Oui, toujours. Alors, cette année un peu plus parce qu'il y a le bouquin, donc, donc du coup je parle beaucoup du Tour de France, mais oui, toujours, peut-être pas comme quand j'avais 12 ans ou 15 ans, mais oui, c'est quand même trois semaines très particulières dans l'année, puis, et quand ce sera fini, je sais que le lendemain de l'arrivée, je me dirai, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Toujours cette espèce de vide quand le tour se termine.
Olivier Aralambon.
Oui, ce vide, quant à moi, je l'éprouverai aussi à coup sûr. Quant à savoir si je suis toujours aussi excité, peut-être je prends un peu de distance, mais je crois aussi que vous me présentiez surtout comme ancien coureur que cette partie-là de mon passé me permet d'avoir toujours un œil intéressé au spectacle, quelles que soient les circonstances. Aussi ennuyeuse puisse-t-elle paraître et aussi problématique soit-elle parfois.
On va essayer d'éclairer justement ces circonstances. Le Tour est-il toujours populaire ? C'est évidemment une question à double sens. Elle joue à la fois sur la baisse de la fréquentation de l'événement consacré ces dernières années. Il y aurait eu 1,5 million de téléspectateurs en moins dans les 10 dernières années, mais aussi sur l'évolution de l'image de la compétition, ternie, je le disais, par un certain nombre d'affaires de dopage. Voilà, ça a perdu un petit peu de sa superbe, selon un sondage IFOP, alors qui date déjà, c'était en 2009, mais 80% des Français douteraient de l'honnêteté des vainqueurs. Que représente encore le Tour de France pour vous, Béatrice Houchard ?
Je crois que ce qui explique la popularité qui, malgré tout, on développera sans doute certains points, malgré tout, se perpétue, c'est que c'est beaucoup plus qu'une épreuve cycliste. Bien sûr, c'est une compétition cycliste, mais je pense que la plupart des gens qui sont sur le bord de la route, je suis pas sûr qu'ensuite ils se précipitent pour savoir qui a gagné l'étape ou qu'ils suivent forcément l'étape du lendemain à la télévision. Et ceux qui regardent la télévision disent pour à peu près 1/2 qu'ils regardent aussi pour les paysages. Bon, si on leur laissait juste les paysages en documentaire pendant 3 semaines, l'audience ne serait sans doute pas celle-là, même si la France est belle, même sans les coureurs, mais elle l'est encore un peu plus avec le peloton du Tour de France. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est un peu de nostalgie de l'enfance, c'est de l'histoire, c'est de la géographie. C'est une espèce de moment, de monument lié à l'été, lié au mois de juillet. Ça se passe pas ni en avril ni en octobre. C'est aussi lié donc aux vacances, même si tout le monde n'est pas en vacances en juillet, mais à l'ambiance des vacances. Et si la popularité demeure malgré notamment les affaires de dopage, c'est peut-être que les raisons d'aimer le Tour de France vont bien au-delà du résultat de la course finalement. Et on va pas se raconter d'histoire. C'est vrai que ces dernières années, on s'est quand même un peu ennuyé.
Olivier Aralambon.
Oui, on s'est ennuyé. Enfin, on s'est ennuyé, oui. Je crois déjà, si le Tour continue de rester populaire et s'il rassemble quand même toujours autant de monde au bord des, ou presque, c'est variable d'une année sur l'autre dans les détails au bord des routes, ça tient à la nature du sport cycliste qui oblige les spectateurs à attendre et à passer des heures ensemble. Donc, de ce point de vue-là, ils font communauté et ça ne change pas. Ensuite, le rapport, il est probable que ce rapport, qui était un rapport, à mon avis, extrêmement fort des spectateurs à la performance cycliste, qui était un rapport de fascination, il est possible que ce rapport se soit, il est même sûr, que ce rapport s'est amoindri, altéré, pour des tas de raisons qui tiennent sans doute à la nature de la performance elle-même, à la façon dont on l'aborde, et pas seulement en tant que spectateur, mais bel et bien en tant qu'athlète.
Mais au-delà du Tour de France, est-ce que c'est pas la course cycliste en elle-même qui, de toute façon, doit briser cette réputation de monotonie, de répétition ? Évidemment, le geste du cycliste est un geste éminemment répétitif. Oui. C'est ce que vous expliquez notamment dans votre livre Le Coureur et son nombre, Olivier Aralambon. Et donc, c'est vrai que pour l'œil non exercé du novice qui voit des hommes sur les routes, appuyés sur une pédale X milliers de fois dans la journée, c'est vrai que ça peut être un petit peu monotone.
Oui, ça peut être monotone. Enfin, le geste lui-même peut sembler monotone. Alors ensuite, il faut être un peu connaisseur pour savoir qu'il ne l'est pas et qu'il recèle une dimension de délicatesse, à mon avis, très, très importante, dont les coureurs eux-mêmes sont peu habitués à parler parce qu'on leur a mis dans la bouche un autre discours prémâché à leur propre sujet. Néanmoins, la course, c'est pas seulement la répétition du cycle de pédalage. Ce sont des tas d'événements, de drames, de tragédies. Ce sont C'est ce fameux spectacle du dépassement dont on pourra peut-être parler, parce qu'à mon avis, c'est une notion très problématique de nos jours, qui fascinait les gens. Je pense que le succès du tour, notamment, c'est enfin, la fascination qu'il a exercée, c'est qu'on vient voir passer des gens un tout petit peu ou beaucoup excessifs et déraisonnables. Il est admis maintenant de dire que l'excès a toujours accompagné le vélo ou qu'il en est une sorte de comme ça d'accessoire. En fait, moi, je crois que l'excès est la substance même du cyclisme. Et je ne sais pas s'il faut que je développe ça maintenant, mais la performance des cyclistes était absolument illimitée. C'est-à-dire que il y avait un rapport du coureur à la performance, et je pense que c'est ça qui fascinait les gens. Les coureurs, jusqu'à une époque récente où c'est devenu inconvenant de le concevoir comme ça, visaient dans la performance le réel dépassement, c'est-à-dire un inconnu. Alors, il y avait une sorte de mystique. Aujourd'hui, la performance est un savoir.
Alors on va revenir là-dessus, justement, sur la technicisation du vélo.
Je pense que l'ennui vient de là.
Mais Béatrice Houchard, j'aimerais que vous entendre sur cette notion de dépassement et même d'excès qui serait consubstantiel au vélo. Vous ressentez la même chose?
Oui, c'est toujours très... comment dire?
Parce qu'on signale que les premiers coureurs cyclistes
le premier qui parle de dopage, c'est Albert Londres quand il va sur le Tour de France en 1924. Quand il invente l'expression les forçats de la route, comme il vient de faire un reportage à Cayenne, il a gardé l'idée de forçats. Il se fait un peu, pardon de l'expression, un peu enfumé quand même par les frères Pélissier, qui sont des grands champions de l'époque, qui sont des vrais champions, mais toujours un peu en rébellion contre l'organisateur. Donc ils en rajoutent un petit peu sur le thème, on est traité comme des chiens, c'est épouvantable, avec une conséquence politique très inattendue, c'est que l'humanité prend fait et cause pour les frères Pélissier et contre le Tour de France. C'est-à-dire que pendant quelques années, ce qui est très drôle quand on sait ce qui va se passer ensuite, l'humanité est hostile au Tour de France parce que c'est un des symboles d'abord d'une épreuve commerciale, déjà, 1924-25, mais aussi de l'exploitation des pauvres travailleurs sur leur vélo. Je dis c'est drôle parce qu'en 1947, les communistes font des pieds et des mains pour essayer de récupérer l'organisation du Tour. Entre-temps, ils se sont aperçus que l'épreuve était très populaire, que leurs lecteurs pour l'humanité et électeurs pour le Parti communiste fournissaient de grosses troupes sur le bord de la route, puisque c'est une épreuve éminemment populaire, et donc c'était quand même difficile de continuer à être contre. Donc Albert Londres va en 1924 pour le Petit Parisien faire ce reportage, et les frères Pélissier lui ouvrent leur musette en disant « Regardez ce qu'on est obligé de prendre, alors c'est, sauf erreur de ma part, éther, caféine, cocaïne, enfin c'est pas le PO évidemment, mais des produits pas, sans doute pas tout à fait pas top pour la santé des coureurs. Donc c'est sans doute vieux comme le Tour, mais peut-être que c'est vieux comme la société et que le fameux dicton plus loin, plus fort, plus haut, pour essayer de faire mieux, de faire plus dans le cyclisme et pas seulement dans le cyclisme, et dans le sport et pas seulement dans le sport, ça existe un peu partout.
Olivier Aralombo, pour répondre justement à cette situation des premiers coureurs du Tour de France, il y a une évolution de ce qui va devenir un métier, c'est la professionnalisation. Alors, la professionnalisation des coureurs, professionnalisation des équipes, de plus en plus de sponsors, donc l'argent, le business, évidemment, qui vient dans le vélo, même s'il est présent, on l'entend dès le début, cette question est présente dès le début. Finalement, on a l'impression que tous les ingrédients qui sont exacerbés aujourd'hui dans le Tour de France sont présents presque dès la fondation, il y a 106, 107 ans de la compétition. Mais parlons un petit peu de cette question de la professionnalisation des coureurs. Quel impact ça a à la fois sur le corps des hommes et des femmes qui courent, parce qu'il y a aussi des femmes, mais pas dans le Tour de France, mais qui courent, on connaît tous Jeannie Lango en France. Quel impact ça a et à quel point ça modifie à la fois techniquement les vélos sur lesquels on court et aussi cette capacité à augmenter les capacités des coureurs.
Bien. Il est sûr que depuis le début, évidemment, si on parle de professionnalisation, on peut considérer que le corps du coureur est son outil de travail. Et il est sûr que de ce point de vue, la démarche rationnelle qui consiste à s'adresser à son corps comme un objet est présente et qu'elle est sans doute très liée à la pratique du dopage. C'est-à-dire qu'il s'agit d'imaginer des causes pour obtenir des effets. Mais de ce point de vue, le dopage n'est pas très différent de l'entraînement. À ceci près que, comment dire, à mon sens, cette professionnalisation n'a jamais. Le cyclisme, on le sait, est un sport éminemment douloureux. On peut souffrir de l'effort. Monter un col, surtout quand on essaie de le monter avec plus fort que soi, c'est quelque chose de très pénible. On peut être dangereux, on peut avoir froid. Il faut endurer ça. On peut être aussi rationnel qu'on veut. On a affaire face à de grandes émotions. Moi qui suis né dans une famille ouvrière plutôt communiste, etc., j'ai tendance à croire aujourd'hui que ce qui m'a attiré dans le cyclisme, c'est sa dimension religieuse. C'est-à-dire que pendant longtemps a prévalu autour du cyclisme, en tout cas, une espèce de morale de la dépense physique, c'est-à-dire une morale de l'épuisement. C'est pour ça que je parle de religion, parce qu'on parle de dilapider ses forces. Ces batailles qu'entendait la religion en ce sens-là, qui disait que la religion ou le religieux, c'est à peu près l'usage que fait une société de ses ressources excédentaires, enfin l'usage dilapidatoire. Et cette économie de la performance, cette économie de la dépense a profondément changé sous l'effet d'une tendance à la rationalisation qui concerne la société tout entière. Et là où les coureurs étaient ces espèces de victimes expiatoires, où l'effort était une forme de sacrifice et où le coureur dans un col visait la grâce, je ne sais pas, mais un au-delà ou un inconnu, c'est-à-dire visait vraiment à se dépasser. Aujourd'hui, les athlètes qui sont des professionnels achevés maintenant, aboutis, gèrent leur corps comme un capital. Voilà, et ils se sacrifiaient, aujourd'hui ils fructifient.
Cette compétition du Tour de France, on l'entend, Béatrice Houchard, et c'est le propos même de votre dernier livre, Le Tour de France et la France du Tour, n'est pas exempte de relations avec le monde politique, le monde économique, le monde même mystique, de ce qu'on vient d'entendre dans la bouche d'Olivier Aralambeau. On voit que c'est peut-être ça aussi qui attire vers le Tour de France. Il s'y joue des questions sociales, politiques, économiques.
Oui, et puis c'est une banalité de dire ça, mais le Tour de France change de se promène pendant 3 semaines. Ça n'est pas un match dans un stade fermé où on paye un billet pour venir le voir. C'est gratuit. On peut encore, ce qui n'est sans doute pas le cas dans beaucoup d'autres sports, on peut encore aller avec son petit carnet de chasseur d'autographes, voir un peu les coureurs, moins sans
on
doute.
On peut même les toucher 20 ou 30... en pleine compétition, ce qui est toujours assez fascinant et impressionnant.
En revanche, il vaut mieux éviter, mais aller à la pêche aux autographes le matin avant le départ, voilà, on voit beaucoup de gamins qui sont là avec leur petit carnet, comme moi j'ai pu le faire jadis. Donc c'est encore le cas. C'est un sport encore relativement accessible. Je reste prudente, ça n'est plus effectivement comme mais sans doute plus accessible qu'un footballeur pour prendre un autre sport ô combien populaire. Et donc il se promène dans les campagnes, alors surtout 98% de routes départementales. Donc c'est vrai que c'est une épreuve plutôt de la France rurale, de la France des chefs-lieux de canton, des clochers, les cloches sonnent quand le Tour de France traverse les communes. La France, je dis toujours, la France se fait belle quand le Tour passe. On fait des tas de décorations, on met des vélos, des fleurs, des décorations aussi des maisons, enfin c'est souvent il y a même des concours pour les agriculteurs, genre, pour faire des très belles décorations, que l'hélicoptère de la télé, rôle très important de la télévision, on en parlera peut-être, que l'hélicoptère de la télé filme, etc. Et de sans faire de parallèle qui serait forcément caricatural avec ce qui s'est passé en France ces derniers mois, les élus, les responsables d'associations ou de clubs cyclistes disent beaucoup plus qu'avant aux organisateurs, hein, de Amaury Sport Organisation, ASO, ils disent de plus en plus merci de ne pas nous oublier, parce que vous connaissez le refrain, la poste a fermé, il n'y a plus de commerce, le médecin, il faut faire 50 km, on nous oublie, il n'y a plus rien. Bon, les métropoles contre la France rurale. Alors, faut éviter tout amalgame, là encore. Hein. Faut éviter de... On va pas dire que gilet jaune et maillot jaune, c'est la même chose. Mais il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, le Tour passe. Moi, il y a une chose qui me fascine toujours. On parlait de... Olivier, tout à l'heure, je crois que vous parliez de l'attente. C'est l'espèce d'esthétique de l'attente. Les gens attendent parfois très longtemps. Alors, il y a la caravane publicitaire que je trouve assez laide personnellement, mais bon, on attrape une casquette ou un morceau de saucisson et on est content comme si on avait gagné une Ferrari. Et on attend, le peloton passe, alors dans ce bruit très caractéristique, si c'est sur le plat, honnêtement, on voit pas grand-chose, peut-être qu'on voit vaguement le maillot jaune, en plus maintenant tout le monde a un casque, des lunettes, très difficile de reconnaître les coureurs. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de frustration après. Le tour est passé, on n'a pas vu grand-chose, on a attendu longtemps et on est heureux quand même. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
Olivier Allemont, cette dimension que vient de développer Béatrice Houchard, à savoir, non pas de faire ce lien politique entre maillot jaune et gilet jaune, et de dire que finalement la France du Tour, c'est la France des ronds-points, même si on voit un certain nombre de ronds-points quand on regarde le Tour de France.
Qui peuvent être très dangereux.
Qui peuvent être très dangereux. J'imagine que ça ne doit pas être le passage préféré, en effet, des cyclistes, Olivier Allemont. Mais cette dimension politique, sociale, elle est présente aussi dans la tête des coureurs, ou pas du tout? On est fixé sur son objectif et sa performance.
Elle est assez peu présente, à mon avis, pour ne pas dire pas du tout.
Et chez les organisateurs,
ils font leur métier. Chez les organisateurs, oui, à coup sûr, les organisateurs ont un business à faire prospérer, et de ce point de vue là le Tour se porte très bien, d'ailleurs. Je crois on en parlait tout à l'heure comme du troisième spectacle sportif au monde. C'est que à défaut d'être toujours aussi infailliblement populaire, il est fructueux, oui, bien sûr, il prospère.
Puisqu'on parle de cette perte de popularité, il y a quand même un élément qu'on n'a pas abordé. Il faut l'aborder ici, ne pas se cacher derrière notre petit doigt. Ça fait depuis Bernard Hinault qu'il n'y a pas eu de vainqueur français du Tour de France. Alors cette année, on a un Tour qui, paraît-il, est plutôt ouvert. Je ne suis pas un grand spécialiste de cette épreuve, bien que, comme tout le monde, je l'ai suivi. Je me suis endormi devant des Tours de France au mois de juillet.
Ça fait partie
quand même de l'événement. Mais en tout cas, les coups de flottante, exactement. Mais en tout cas, l'absence de Chris Froome et un certain nombre d'autres absences de ce Tour a ouvert la possibilité de voir peut-être autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Béatrice Houchard? Est-ce que Romain Bardet, est-ce que Thibaut Pinot ont une chance de gagner le Tour de France?
Sur un premier point, si vous me permettez, moi je suis pas sûr qu'il y ait baisse de popularité. Je pense qu'il y a moins d'intérêt pour la course elle-même. Alors peut-être parce qu'un Français, on va y revenir, n'a pas gagné depuis 85, peut-être parce qu'il y a plus ces grandes rivalités. Rappelez-vous, effectivement, Anquetil Poulidor qui coupait la France en deux, ça n'était pas par la politique. Fignon Lémon, l'année où ça se joue, ces fameux 8 secondes en 1989 qui se jouent dans la dernière
étape. Qui en matière de dépassement et de souffrance.
Effectivement, une rivalité où ils se sont échangé le maillot jaune, tantôt l'un, tantôt l'autre, pendant tout le Tour de France. Et finalement, ça se joue à rien, quoi, quelques centaines de mètres sur les Champs-Élysées. Donc, il n'y a plus ça. La popularité de ce que représente le Tour dans la France, moi, je ne suis pas sûre. J'ai suivi une étape l'année dernière, j'ai vu autant de monde que d'habitude et
moins de téléspectateurs, paraît-il.
Alors, un peu moins, c'est pas si évident que ça parce qu'il y a aussi Eurosport qui diffuse. Donc, maintenant, il y a aussi une autre manière de suivre le Tour. Je pense que beaucoup de gens peuvent aussi suivre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que les 25 derniers kilomètres de l'étape à la télévision comme jadis. Alors, sur les Français, moi, je crois pas beaucoup à une victoire ni de Romain Bardet ni de Thibaut Pinot cette année, mais une bonne surprise est toujours arrivée. Et je pense que c'est important, mais je pense que ça n'est pas essentiel. Bien sûr, les gens aiment bien quand un Français gagne, si Julien Alaphilippe gagne l'étape, ou porte le maillot jaune, ou Pinot ou Bardet, ils seront contents, mais je pense que ça dépasse de beaucoup. Moi, je n'y vois pas de chauvinisme outrancier. Il y a évidemment une préférence pour les coureurs français, mais les gens aussi beaucoup aimé. Alors, en remontant très loin, moi j'ai le souvenir, quand j'étais petite, j'entendais les gens parler de Charlie Gaulle, Federico Bahamontes, qui n'était pas français que je sache, ou Coppi Bartali, qui aussi était populaire. Plus près de nous, Greg LeMond, qui est le premier américain à avoir gagné. On oubliera Lance Armstrong, qu'on laissera sur le côté, puisqu'il est rayé. Son nom est toujours, le nom n'est pas gommé en fait. Sur le palmarès officiel, il y a son nom, mais rayé cette fois sur le palmarès reste du Tour. Mais si un Français gagne, c'est bien, mais je pense que ça n'est pas essentiel. C'est moins important qu'une finale de Coupe du Monde entre la France et le Brésil, ou la France et la Croatie, c'est ça, je ne me trompe pas.
Oui, c'était la voilà. Croatie, ou ce qui aurait pu être la France contre les États-Unis ce soir chez les filles. Malheureusement,
mais ça n'a pas eu
lieu. Olivier Allemont, vous êtes d'accord? Pas si important que ça, une victoire française ou non? Ou ça fait quand même aussi partie de la mythologie, de la légende?
Moi, je pense que ça fait partie de la mythologie. Alors, cette importance, en effet, je suis d'accord, elle est à relativiser. On a vu que l'attachement des Français, ce fameux attachement à Poulidor, qui était toujours second, etc., était important. Et peut-être parce que dans le cyclisme, longtemps, la façon de courir, la vertu, n'était pas forcément toute dans le résultat. Et puis, ce paradoxe du cyclisme dont vous disiez à l'instant, Béatrice, qu'on peut toucher les coureurs, mais c'est qu'à la fois on peut s'en approcher, mais la course on la voit pas. Le cyclisme est un sport invisible, c'est-à-dire on les voit passer, ils sont retirés sitôt donné, ils disparaissent, et puis on l'aperçoit, dans le meilleur des cas, on l'aperçoit toujours que par fragments. C'est-à-dire qu'elle a besoin, la course cycliste, elle ne se passe pas d'un récit mythique ou d'un point de vue surplombant qui la fabrique. Et c'est ce récit qui aujourd'hui est pas mal mis en danger aussi par la technicisation absolue du sport.
Alors justement, puisqu'on est sur cette dimension de récit, ça a d'abord été les récits écrits dans les journaux, ouais. Et la littérature. Albert Londres, vous l'avez rappelé, Béatrice Houchard.
Beaucoup d'écrivains, beaucoup d'écrivains.
Ça a été ensuite, oui, évidemment, tour, vous en parlez aussi dans votre livre, Olivier Arlambon. Il y a aussi la radio qui longtemps a tenu ce rôle de récit mythique, et désormais c'est la télévision. Et donc cette évolution, vous entendre Olivier Arlambon, parallèlement à l'évolution de la technique. Alors voilà, avec la télévision, on a les hélicoptères, on a le côté un peu déraciné des ailes, on fait le tour du patrimoine, on s'intéresse plus à cela parfois qu'aux stratégies des équipes ou à ce qui se passe dans la course. Ça a changé aussi ce regard sur la course cycliste.
Oui, sans doute. C'est-à-dire cette façon de nous gaver d'images, d'une part, contribue peut-être à une impression de durée qu'on n'avait pas autrefois parce qu'on s'occupait autrement à attendre le passage de la course. Peut-être qu'elle contribue à l'ennui elle-même, c'est la première fois que j'y pense en ces termes, mais c'est peut-être pas...
Pas anodin,
c'est peut-être pas anodin, ouais. Non.
Vous voulez réagir?
Oui, moi je m'interroge sur la retransmission maintenant en direct, en intégralité de toutes les étapes. Est-ce bien nécessaire? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on, du coup, ça ajoute sur certaines étapes, notamment les étapes sans montagne, ça ajoute quand même un peu à l'ennui de certaines étapes. Cela dit, si on avait retransmis en intégralité des étapes des années 50, 60 ou 80, je pense que ça aurait été exactement la même chose. Hein.
Sans compter les étapes de 450 km.
Voilà, avec des étapes en plus, ouais. Beaucoup plus longue que maintenant. Je suis pas convaincu que ce soit franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas convaincu que ce soit forcément une bonne chose.
Que cette façon de nous abreuver d'images diminue la part de l'imaginaire et qu'elle était importante effectivement. C'est-à-dire que là, on était obligé de se représenter en les attendant. Merckx et Ocaña se battant dans un col. Quand on les voit du début à la fin, et puis maintenant il y a même des caméras qui sont fixées sur les vélos des coureurs. Enfin, pour cette tendance à être insider comme ça au cœur du peloton, on veut être au cœur de tout, etc. Je pense que d'une part ça amoindrit l'imagination et donc le désir. Et puis d'autre part, que de toute façon, c'est peine perdue. On la verra jamais, cette course, elle est invisible. Il faut l'imaginer. Or, c'est pas la capacité qu'on stimule chez le spectateur et l'amateur de vélo. Et ça me paraît assez dommageable.
Vous parliez tout à l'heure de ce contre-la-montre mythique à l'arrivée à Paris en 88, je crois, entre Greg LeMond et Laurent Fignon. Et je disais, c'est vraiment l'image de la souffrance. Voilà, moi, j'avais 8 ans à l'époque, je me souviens très très bien de cette course. Parce que on voit Laurent Fignon qui s'écroule à la fin, perclus de douleur. Et donc cette dimension-là de la souffrance, c'est un élément essentiel. Et est-ce qu'elle n'a pas tout à fait disparu tout de même, Olivier Arlambon?
Non, elle a sans doute pas disparu, bien sûr. Et on voit pas mal de coureurs s'effondrer après les lignes d'arrivée, c'est-à-dire qu'il se vide jusqu'au dernier degré, quoi. Concernant Fignon, il s'était effondré de déception, surtout. Mais la douleur, en même temps, ils y sont très très acclimatés, très habitués. Elle fait partie ils en sont très familiers. Donc ils peuvent s'écrouler, néanmoins c'est pas forcément un drame ce qui s'est passé dans l'existence de Fignon à ce moment-là. Ça a été une déception écrasante et une surprise totale ce jour-là. C'est ça qui l'a brisé, je crois. Et on saurait pas d'ailleurs, cette fameuse question, il faut un sujet pour éprouver la douleur. La douleur, c'est pas quelque chose de mécanique. Donc voilà, ils peuvent s'écrouler dans la joie. On a vu cette année Mathieu Van Der Poel gagner l'Amstel Gold Race d'une façon tout à fait incroyable. Il s'est effondré après la ligne d'arrivée, mais il était mort de joie, si j'ose dire, et d'épuisement à la fois.
Béatrice Houchard.
Oui, pour Fignon, effectivement, je pense que c'était surtout la déception de perte comme ça sur le fil, oui, plus que la souffrance elle-même.
Alors, vous avez dit à plusieurs reprises que c'était un sport populaire, mais qui pratique véritablement ce sport aujourd'hui? On voit que la bicyclette, le vélo, c'est plus la petite reine de 1936 et des premiers Conchepaille, c'est beaucoup plus un instrument, j'ose le terme, même si sociologiquement il est quand même indéfinissable, mais celui de bobo, c'est plutôt un instrument de bobo des centres urbains qui se déplacent sur les pistes pistes cyclables que véritablement toujours cet objet aux mains des classes populaires qui leur permet voilà de dépasser le centre du village ou le lieu, leur banlieue, le lieu où ils sont, où ils résident. Est-ce que cette évolution sociologique du vélo, on la retrouve selon vous dans la compétition qu'est le Tour de France, Béatrice
Alors,
Houchard?
Je suis pas sûr que ça corresponde. En tout cas, c'est vrai que dans les zones rurales, on n'a pas attendu le Vélov à Lyon et ou Vélib à Paris pour prendre le vélo. Hein. Même les enfants allaient à l'école à vélo. Je parle d'une époque très très lointaine. Mais et puis le vélo était vraiment un moyen de transport. Maintenant, c'est un peu différent. Je suis pas sûr que les gens qui font du vélo dans les métropoles, comme on dit maintenant, soient forcément les plus acharnés à suivre le Tour de France. Ça semble être très différent à l'étranger, puisque quand il y a des candidatures de villes pour le départ du Tour de France, je pense à Londres, à Utrecht ou à Copenhague, puisque le Tour partira de Copenhague en 2021, ça s'inscrit vraiment dans un plan. Il y a à la fois la compétition cycliste, mais en profiter pour faire un plan de mobilité, pour prendre le terme à la mode, et d'aménagement. C'est vraiment très important pour les étrangères. Je suis pas sûr que ce soit aussi vrai en France. Sociologiquement, ça n'est sans doute pas tout à fait la même chose.
Olivier Arlambon.
Oui, c'est vrai que longtemps en France, en tout cas, le vélo de course et la bicyclette étaient deux objets tout à fait disjoints.
Vélo, bicyclette.
Voilà, vélo, oui, tout à fait. Il y avait deux mots différents et qui ne se recoupaient pas du tout. Je crois que ça change et qu'en effet, je me permets de reprendre et pour dire vite que les bobos désormais s'intéressent au vélo et plus seulement à la bicyclette, c'est-à-dire que et pas seulement dans un sens écologique ou parce que c'est mieux pour la planète de vélo taffé que d'utiliser sa voiture, mais ils s'intéressent même de plus en plus à la performance, à leur propre performance, mais aussi parce que cette performance est débarrassée ou tente de se débarrasser de cette espèce d'aura sulfureuse dont on a parlé. C'est-à-dire les bobos contribuent à nettoyer l'image de la performance, si je puis dire.
De quelle façon ?
Eh bien, écoute, parce que longtemps le sport cycliste a été, on le sait, un sport éminemment populaire. Le peloton recrutait dans les couches paysannes ou ouvrières de la société. Cette société a largement changé, c'est moins qu'on puisse dire. Pour ainsi dire, il n'y a plus de paysans ni d'ouvriers. Même les coureurs professionnels aujourd'hui sont souvent issus des classes moyennes, c'est-à-dire ils ont reçu, on sait qu'ils sont de plus en plus souvent diplômés et qu'ils ont un rapport tout à fait différent de ceux que pouvaient avoir leurs aînés à ce métier et à l'économie du corps. Et donc la vie que mènent les coureurs cyclistes aujourd'hui n'est pas complètement incompatible avec celle du bobo qui peut s'y projeter, quoi. Je veux dire, je ne prends parti pour personne. Je suis pas nostalgique forcément d'une époque révolue. Mais je veux dire, je crois qu'un graphiste parisien peut aujourd'hui se projeter en Romain Bardet. C'était pas le cas avec Hino encore.
La seule différence, c'est que pour s'entraîner, enfin ça vous le savez mieux que moi pour le coup, pour s'entraîner et accéder à un certain niveau en cyclisme, il faut avoir autre chose que des pistes cyclables dans une grande ville. Donc
il faut sortir
de la ville, ce qui n'est pas forcément facile dans une très grande ville. Économiquement, c'est très important aussi. Il se vend 6000 vélos par jour en France, dont beaucoup de vélos français. Donc économiquement, c'est redevenu. On avait l'impression il y a 20 ans que le vélo c'était fini, plus personne achèterait ces vieux machins, et c'est redevenu économiquement quelque chose de très important.
Merci beaucoup. Bah écoutez, on va regarder. Je vous demande un pronostic quand même pour le tour. Vous avez dit pas de français, mais
alors moi j'avais plutôt Souchard. Joué Jacob Fuglsang, mais bon, il est tombé hier. Il est déjà un peu amoché. On verra.
Il semble pas gravement amoché. Moi, je vais dire Bardet ou Pinot parce que je veux y croire quand même et que le parcours s'y prête pas mal.
Le parcours est favori.
Il y aurait long à dire sur la conception et la construction du parcours.
Ce sera pour une autre émission. Mais vous voyez, il y a quand même un petit peu de chauvinisme dans votre pronostic, Olivier Arlambon. Pour votre livre. Mes coureurs imaginaires vient d'être publié chez Premier Parallèle. Le Tour de France et la France du Tour, c'est chez Calman Lévy. Béatrice Houchard, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Le magazine du week-end, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, dans les matins, par Olivia Gesbert à 7h40 pour l'actualité. Aurélie Filippetti et Martial Foucault viendront parler des décompositions et recompositions de la vie politique française. Et à 8h20, c'est l'immense écrivain américain Robert Little qui sera là pour Coba. Merci à toute l'équipe programmation, Chloé Rossignol, coordination Hugo Boursier, préparation Isé Sorel et Benjamin Teinturier. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nicolas Delmas.